Il faut une certaine dose de tendresse pour se mettre à marcher avec tout ce qui s'y oppose. Pour se réveiller avec tant de nuit dessus.
Sous toutes les colères du monde, Alim Payet rencontre Denis Cugnot, directeur de l'École des Arts à Marcoussis.
Les débuts, c'était une école de musique, une sorte de conservatoire municipal, qui avait une petite centaine d'élèves. Et les élus qui m'ont fait venir à l'époque, c'est en 87, m'ont demandé d'élargir le recrutement et donc de faire ce qu'on appelle de démocratiser l'enseignement aux techniques artistiques. Et démocratiser ça, c'était vraiment une passion que j'ai depuis toujours. J'ai été maître auxiliaire à 19 ans et demi à Argenteuil. Je savais pas encore que c'était ce qu'allait devenir les cités, mais voilà. Donc à la fois, je faisais des études, j'étais sur le terrain, mais pas le terrain comme on le dit maintenant. C'est une chose naturelle, une sorte de militantisme culturel qui m'a été transmis par mes parents, mon père qui était un comédien de la décentralisation. Enfin, voilà, je suis né, j'étais bercé là-dedans. Donc en 87, on m'a demandé de développer l'école de musique, ce qui est plutôt sympathique pour des élus, hein. Et puis alors, j'ai adopté des principes simples. Je serais incapable de théoriser très longtemps, mais de respecter les profs, de prendre le temps avec les enfants, d'être patient, de tout faire pour qu'ils soient encore là 10 ans après. En fait, voilà, ma recette, c'était ça. C'est on prend un enfant à 6 ans, 7 ans, et ce qu'on veut... Et si on n'est pas trop mauvais, nous, les profs, les pédagogues, à 17 ans, 18 ans, il va être encore là. Et alors, à ce moment-là, ça aurait été un acquis technique, théorique, philosophique, en quelque sorte. Donc, j'ai toujours un peu minoré la part d'apprentissage technique, demandé aux profs d'être patients, et par contre, de développer tout ce qui était le mystère de la musique, des musiques, faire aimer toutes les musiques, donc une pluralité esthétique. Et donc, avec des profs que je respectais, qui étaient respectés par la municipalité, puisque chaque année, ils avaient plus d'heures qui leur étaient payées, ils voyaient l'effort culturel qui était fait par la ville. Et ça s'est beaucoup développé au point d'atteindre maintenant, rien qu'en musique, plus de 700 élèves. Et en 95, on a élargi aux autres arts, c'est-à-dire théâtre, arts plastiques et danse, plusieurs danses. Et maintenant, on est 1500 élèves, donc dans une ville de 7400 habitants.
Est-ce que les adultes aussi, c'est une préoccupation pour vous que des adultes, parce qu'on en voit beaucoup qui se disent « Ah ben je ne l'ai pas fait quand j'étais petit, je ne l'ai pas fait quand j'étais ado, ou j'ai lâché au moment où il fallait commencer des études, mais j'aimerais pratiquer ». Est-ce qu'ils viennent aussi dans ce type de maison ?
Oui, absolument. Et alors, c'est intéressant parce que quand je suis arrivé en 87, j'étais quand même dans le moule. Bon, les conservatoires, c'est d'abord pour les enfants. Et assez vite, des adultes m'ont convaincu, des adultes de la ville, que... La démocratisation de l'enseignement artistique et transformer une ville par la culture, par l'art, ça passait aussi par eux. Et on a effectivement maintenant de nombreux adultes dans l'école. Ils jouent dans les orchestres avec des adolescents, ils ont toute leur place. Et en plus, l'effort de la ville, et qui est un peu rare là-dessus, c'est qu'ils sont aussi au quotient familial, c'est-à-dire qu'ils payent selon leurs revenus.
Ça fait combien de pourcentage de la population qui pratique
On pourrait dire qu'une personne sur quatre... a un vrai niveau dans une technique artistique dans la petite ville.
C'est extraordinaire.
Oui.
Par rapport à la moyenne nationale.
C'est extraordinaire, mais en même temps, il y a des couches de la population qu'on n'a pas encore touchées et qu'on n'oublie pas d'essayer de toucher. On ne se satisfait pas de tout ça.
Qu'est-ce qu'il faut en plus pour aller vers ces couches-là ?
pluralité de choix esthétiques, ce qui ne veut pas dire être dans la démagogie, hein, évidemment, et sans doute des techniques pédagogiques nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne tient pas assez compte nous, les pédagogues, les profs, qui ont été formés à la française en instruments, dans diverses disciplines, donc quand même avec pas mal de souffrance, pas mal d'abstraction. Je pense que le danger qui nous guette, c'est qu'on vieillit et que les nouvelles générations sont très différentes. J'imagine pas qu'il y ait des cours maintenant de formation musicale, de solfège, qui ne soient pas faits avec l'ordinateur. C'est aberrant. Et on n'en est pas encore, dans tous les conservatoires, à s'en servir comme un jeu. Je crois que l'enseignement artistique, il doit être ludique au départ, même si le but, c'est une élévation de l'esprit et une maîtrise technique extraordinaire. Mais il faut partir du jeu. Et donc, quand on ne touche pas toutes les couches de la population, c'est parce qu'on n'a pas encore cette pédagogie assez... C'est un jeu d'enfant. L'art est un jeu d'enfant au départ.
Est-ce que ça passe vraiment par ce que vous avez dit plusieurs fois, c'est-à-dire une volonté politique des élus ?
Une volonté des techniciens, enfin une volonté, un savoir-faire des techniciens, et évidemment le soutien d'une ville ou d'une petite ville, parce que ça coûte très cher aux villes, malheureusement, c'est-à-dire que l'enseignement des techniques artistiques en France, il coûte aux parents, il coûte aux collectivités locales, et donc très souvent les élus ferment ces écoles par le numerus clausus, il faut attendre un an, deux ans, trois ans, pas pour des raisons pédagogiques du tout, mais pour des raisons budgétaires. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que plus il y a d'élèves en art, eh bien plus ça coûte cher à la commune. Donc là, j'ai eu la chance, dans cette petite ville qui avait un potentiel fiscal important, et là aussi on peut s'interroger, un potentiel fiscal, c'est-à-dire des entreprises qui payent de la taxe professionnelle, donc le paradoxe, c'est qu'on peut créer des belles bibliothèques démocratiques, des beaux conservatoires démocratiques, que si on a de la richesse fiscale. Enfin, tout ça est très compliqué, paradoxal.
Est-ce que c'est simplement compliqué ou est-ce que c'est une question qui vous taraude en tant que militant ? Parce qu'à côté de ça, vous êtes militant.
Militant culturel de toute façon et citoyen engagé. Oui, ça me taraude, bien sûr. Parce que de fait, des villes qui n'ont pas cette richesse fiscale, il y a des entreprises et qui ont des élus qui veulent démocratiser, faire goûter l'art à des enfants de diverses origines, de milieux défavorisés, n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que l'État, notre République, ne donne pas les moyens pour enseigner de façon approfondie. Hein ? Donc il y a l'enseignement à l'école primaire ou au collège, mais d'enseigner de façon plus approfondie des mômes qui ont envie de musique, de théâtre, de danse, d'art plastique, il n'y a pas de subvention de la République. Donc c'est entièrement la charge des communes. Donc si une commune, même qui aurait la volonté politique, n'a pas ces entreprises, elle ne peut pas faire une belle médiathèque, elle ne peut pas démocratiser. Ces enseignements aux techniques artistiques sont hors de l'égalité républicaine. C'est-à-dire que si votre enfant veut devenir physicien, ingénieur, médecin, il vous paraît naturel en tant que parent que l'école de la République soit gratuite. Et les études le sont à des frais d'inscription près à partir de l'enseignement supérieur. Si votre enfant veut être plasticien, danseur, musicien, vous allez payer même le conservatoire municipal dès le départ. Et éventuellement, à 20 ans, si votre enfant est devenu brillantissime et intègre un des deux conservatoires nationaux supérieurs, les études seront gratuites. Mais je signale qu'à ce niveau d'excellence, qui est donc l'intégration aux deux plus grandes écoles de plus grands conservatoires de France, là où les études deviennent gratuites, enfin, l'équivalent en excellence, on pourrait dire que c'est normale supérieure ou polytechnique. Oui. Et là, ces jeunes étudiants, le haut du panier, sont payés.
Et en plus, si on pousse le raisonnement du déroulement d'une vie, d'une passion pour aller vers une carrière, on va après produire des intermittents qui ont un statut qui a toujours été ou remis en cause ou de toute façon précaire et en tout cas pas reconnu au même titre que d'autres statuts en France.
Oui, oui, c'est sûr. Et ça, quand même, là, on voit avec le mouvement des intermittents ou les questions d'égalité républicaine dont je parlais tout à l'heure, c'est que même avec des élus ouverts, on est toujours en situation de culpabilité. On nous culpabilise toujours. Les intermittents sont encore obligés d'expliquer qu'est-ce que c'est que leur travail, leur répétition, comment ce statut permet la création. Et ça fait des années qu'ils sont amenés tout le temps à le redire.
À se justifier, au fond.
À se justifier, et on se sent coupable. Et moi, en matière pédagogique, en matière de diffusion de la formation, eh bien, devant mes élus, aussi formidable soit-il, il y a toujours, oui, mais attention, on n'a plus beaucoup d'argent là. Là, tu prends de l'argent sur d'autres services et tout. Alors, évidemment, dans la mesure où ce n'est pas l'État, ce n'est pas la République qui prend en charge les artistes par un statut de fonctionnaire, je crois qu'ils n'aimeraient pas. Mais on pourra se réinterroger là-dessus. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine qu'ils soient salariés par l'État et qu'en échange, ils doivent un cahier des charges, quelques interventions dans les écoles, une fois...
Comme les chercheurs, au fond. Certains chercheurs ont ce statut.
Bien sûr, bien sûr. Mais là... On n'en est pas là, et en plus, nos confrères artistes français ne sont pas d'accord. Donc on est amené.
On peut rêver. Hein.
On peut rêver, mais il faut aussi tenir compte du mouvement social. Et donc, il faut défendre l'intermittence, bien sûr, même si les artistes eux-mêmes disent qu'il y a eu des effets, que tout n'est pas parfait. Mais c'est sûr, c'est cette culpabilité. On ne sert à rien. Les artistes servent à rien. Les pédagogues, les profs de piano, les profs. On est tout le temps. On nous renvoie à cette idée, quoi.
Est-ce que vous pouvez croire que c'est qu'une histoire comptable ? L'argent ?
Non, c'est... Je ne crois pas que les élus pensent qu'on peut changer une ville, une petite ville, une grande ville, par la culture et par l'art. Et nous, les pédagogues, les militants culturels, on pense, mais pas parce qu'on valorise. Je ne fais pas partie de ces gens qui valorisent mon activité, que la musique ou le théâtre, c'est la chose la plus importante au monde. Non, la recherche est formidable, la science, les ingénieurs, les maçons, tout est fondamental. Je ne survalorise pas mon activité. Par contre, j'ai vraiment le sentiment que quand les mômes, très tôt, commencent à jouer de la musique ensemble... et à se révéler à eux-mêmes individuellement, c'est-à-dire jouer ensemble et se révéler à soi-même, c'est une garantie de développement, c'est une garantie contre la désespérance, contre aussi la drogue douce qui a pénétré de façon incroyable pas que les cités, tous les milieux. C'est aussi une chose que j'ai pas du tout vu venir. Tout le monde fume à 12-13 ans. Enfin, un truc
complètement... À 12-13 ans.
Ah oui. On est tous démunis devant ça, on sait pas quoi dire, mais on se ferme pas les yeux, mais il y a un vrai truc qui s'est passé, ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vu venir. C'est vrai que... moi, cette ville Marcoussi, je l'adore. J'y vis depuis 20 ans. Et je me suis polarisé sur cette ville. Et je n'ai pas vu l'état de délabrement de cité, de rupture du lien social. Et au sein de ma petite ville, je n'ai pas vu non plus cette évolution des préados. Par contre, j'ai su l'accompagner. Maintenant, je m'en aperçois, puisque maintenant, j'ai des confidences des mômes qui ont 25 ans, 23 ans, qui m'ont dit que l'enseignement artistique leur avait beaucoup apporté. C'est-à-dire que même s'ils vivaient dans leur temps et ils faisaient des fêtes assez, assez graves, je trouve, à leur jeune âge, mais le fait qu'ils étaient intégrés en musique et en art, clairement les a empêchés d'aller trop loin. Et là, je l'ai vu, là, c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je peux rester encore militant et y croire là-dessus.
Là, vous avez un peu de recul par cet enseignement et ce militantisme culturel. Mais comment c'est né chez vous ?
C'est des choses un peu intimes. Hein. Je ne sais pas, ça... C'est venu jeune, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'amour de la musique et l'amour de l'art est venu très jeune. Et entre autres, dans ce qu'on appelle la crise d'adolescence, donc dans ce moment très, très trouble, très solitaire, donc la compensation, c'était d'écouter les sonates de Beethoven, de lire. Si j'aimais ça, c'était quand même aussi grâce à mes parents. Et alors après, il y a eu, en même temps, il y a eu la rencontre du politique. C'était la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine. Et là aussi, en adolescent sensible, comme beaucoup d'adolescents, ces bombardements, ces images de B-52, du napalm, même si je n'avais pas une grande culture politique à l'époque, c'était très troublant. Et au point que fondamentalement, je me disais, je n'ai pas le droit d'étudier le piano, je n'ai pas le droit d'apprendre. Parce qu'il y a trop de... C'était une pensée adolescente. Il y a trop de gens qui souffrent et je n'ai pas de solution individuelle. Je ne peux pas construire ma vie pendant que les enfants se font napalmer. Ce qui fait que j'ai perdu beaucoup d'années d'études, d'ailleurs, de ce que je préférais, la musique. Donc voilà, il y avait les deux choses. L'amour de la musique, l'amour de l'art et le monde tel qu'il était déjà à l'époque, où il y avait des guerres très injustes. Et alors, comment j'ai pu faire la jonction entre les deux? Ben voilà, j'ai dû faire la jonction entre les deux. Donc je ne me sentais pas le droit d'être un artiste dans ma tour d'ivoire et ne faire que ça. Pour moi, c'était inhumain, c'était trahir le monde. Donc je n'ai pas poussé jusqu'au bout, à cet âge-là, la musique, comme un étudiant qui veut devenir soliste. Et j'ai trouvé la pédagogie, la transmission, pour faire le lien entre cette souffrance... cette souffrance qui me nécessitait de m'engager politiquement et mon amour de la musique.
Alors aujourd'hui, vous avez changé de statut, Denis Cugno, vous êtes directeur des affaires culturelles à Marcoussis. Alors ça veut dire que vous n'êtes plus le directeur d'une école des arts, que vous n'êtes plus simplement un pédagogue avec d'autres pédagogues. Vous êtes la charnière entre oui. L'élu et ces écoles-là. Et donc, à ce point d'observation et d'action, est-ce que les choses changent ?
Donc, directeur des affaires culturelles, ça veut dire que j'ai sous ma responsabilité les divers équipements culturels, donc l'école des arts, un cinéma, la programmation et la bibliothèque. Et donc, avec un projet de médiathèque qu'on lance. Voilà, donc ça change, ça élargit ce que j'ai à présenter dans le cadre du service public de la culture à la population.
Alors, avec un programme pareil, vous pourriez, après avoir été directeur d'une école, directeur des affaires culturelles, vous pourriez avoir un mandat. Parce que là, est-ce que le politique ne permettrait pas d'agir de manière plus générale, plus visible pour ce service public de la culture au niveau national ?
Oui, moi j'aimerais non pas du tout être élu parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai quand même aussi ma petite œuvre, mes petits opus, mes opusettes à faire, mon piano auquel je renonce jamais. Mais par contre, oui, d'arriver donc par le politique, par les partis politiques tels qu'ils existent, hein, tant qu'il y en a pas des nouveaux, il faut tenir compte de ces partis qui sont issus de notre histoire, de convaincre des élus d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion, dans le programme, mettre dans leur programme une réflexion culturelle, des objectifs sur l'art, sur les praticiens de l'art, sur les pédagogues de l'art, bien sûr, on est dans une débâcle. Même sur les dernières municipales, l'année dernière, on a vu qu'il y avait très peu de villes qui, dans leur programme, devant les électeurs, proposaient ou des équipements culturels, ou des fonctionnements, ou une utopie culturelle.
Que dire au niveau des présidentielles ou des législatives? Oui. Mais comment ça se fait? Est-ce qu'il y aurait une classe politique, enfin je mets classe entre guillemets, j'espère que non, mais on finit par le croire, qui serait en plus une classe qui serait coupée complètement de l'art et de la culture? Ça paraît fou quand même.
Non, mais ils sont eux-mêmes cultivés, eux-mêmes par des circuits d'écoles privées, de cours privée. Ces gens-là, je les respecte, c'est quand même des énarques, des polytechniciens. Vous savez combien il y a d'énarques et de polytechniciens qui jouent merveilleusement de la musique? Mais plus d'un sur deux. Ce sont des grands amateurs, ils pratiquent. Il y en a beaucoup et ils aiment ça vraiment.
Mais alors, ils n'ont rien dans la tête de ne pas faire quelque chose pour le collectif?
Mais parce que là, ils sont quand même un peu coupés. Ils ont été brillants dans l'école, ou brillants, bien nés, plus brillants, parce que, ou juste brillants, ce qui est encore plus formidable d'être mal nés et brillants. Mais donc, le fait que le peuple aurait le droit à étudier Jean-Sébastien Bach, Mozart, Van Gogh... Ça leur vient pas à l'idée, c'est pas du tout... Non, c'est une sorte de libéralisme. Quelqu'un qui veut, il peut, quoi. Donc si un môme d'une cité a envie de jouer le clavier bien tempéré, il y arrivera de toute façon. Et s'il y arrive pas, c'est qu'il a pas envie. Non, je crois qu'il y a vraiment...
Mais face à ça, comment vous réagissez?
Devinez. j'ai réagi, je vous dis, dans une ville qui n'est pas une cité, qui est une petite ville de couche moyenne. J'ai réagi en faisant qu'effectivement... Il y a un nombre incalculable de mômes qui sont mis à en faire de l'art. Et là, on a vraiment élargi. Parce que dans ces milieux, dans cette ville, il y aurait eu des gens qui, de toute façon, même sans l'équipe pédagogique, même sans nous, auraient fait de la musique. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé, ils étaient là. Il y avait justement cette centaine d'élèves qui sont dans n'importe quelle petite ville, qui sont là, de toute façon, par atavisme, par parents qui attachent beaucoup d'importance. Là, ils étaient là. Mais donc, les 600 qu'il y a eu en plus, là, ils sont venus de nulle part. Mais ils étaient là aussi. Dans la ville. Donc voilà, j'ai réagi en allant les chercher.
Aujourd'hui, on va peut-être aussi un peu parler quand même du musicien que vous êtes, parce que c'est beaucoup de générosité, au fond, de passer tout ce temps avec les autres pour transmettre, et parfois au détriment de son propre instrument, le piano, de la composition. Alors du coup, vous arrangez beaucoup, et vous êtes parti vers une musique, vous... Le musicien classique au départ, hein, si je ne me trompe pas.
Un peu, ouais.
Hein, vous êtes parti vers une musique qu'on entend peu et qui pourtant touche tout le monde. C'est la musique klezmer.
Donc la musique klezmer, c'est une des musiques populaires d'Europe centrale et orientale des communautés juives au XIXe siècle, qui au XXe siècle fusionne avec le début du jazz, hein, par l'immigration. Et c'est la musique de mariage où les musiciens, donc des musiciens ambulants, improvisaient énormément. Le mariage juif pouvait durer jusqu'à 7 jours. Et donc, ça a été des musiciens, comme beaucoup de musiciens dans les musiques du monde, des grands improvisateurs. Donc, avant le jazz, bon, des super improvisateurs. Et des mélodies que je trouve très, très belles. Et comme souvent dans la culture juive, il y a vraiment ce mélange instantané entre le rire et les larmes. Hein. Donc, dans cette musique, ce qui est un peu typique, et c'est ça, c'est ce passage vraiment du drame... sans cesse malheureusement renouvelé à l'éclat de rien. Et dès que j'ai découvert cette musique fin des années 70 par un ami Nano Pelé, qui est clarinettiste du groupe Bratsch, groupe Zigan, et qui lui n'est pas juif, donc ça c'est bien, c'est quand même un musicien non juif qui m'a fait découvrir cette musique, moi qui ai une mère juive.
Votre mère?
Non, ma mère c'est une universaliste. Et c'est le siècle des Lumières, donc c'est l'opéra et la grande vraie musique, pas la musique du folklore. Et donc j'ai tout de suite énormément aimé cette musique. Et c'est vrai, depuis 5-6 ans, je m'y consacre à plein temps, artistiquement. Et évidemment, comme en plus le piano n'existait pas, ce musicien ambulant, c'était surtout... Bon, en dehors des instruments rois, c'est-à-dire clarinette et violon. Mais autrement, les instruments d'accompagnement, c'était contrebasse ou guitare ou accordéon ou cymbalum, cet instrument que j'adore. Comme il n'y avait pas de piano, j'ai un espace d'invention qui me plaît bien, c'est-à-dire de comment faire sonner le piano pour qu'il ressemble à de l'accordéon, qu'il ressemble à un cymbalum, qu'il ressemble à guitare contrebasse. Donc c'est vrai que j'ai un espace de liberté. Donc j'ai à la fois adoré cette musique, je l'adore parce que vraiment c'est celle qui m'inspire le plus. Et en tant que pianiste, il y a quand même plein de choses à inventer tous les jours. Dans cette musique.
Là, le citoyen engagé voudrait bien laisser la place au militantisme de la musique seulement, j'imagine.
Ah non, là, je ne veux pas militer en musique. Justement, là, je sais très mal me vendre et je ne tiens pas à me vendre. Là, c'est vraiment, il faut que je garde des lieux très intimes. Et puis, on verra bien si un jour, on me demande de jouer ailleurs que dans les lieux que j'aime bien par ailleurs, mais qui sont effectivement des lieux communautaires. Et là-dessus, par contre, ça a avancé parce que quand on a commencé il y a 20 ans avec Nano Pellet, dans les lieux communautaires, cette musique n'était pas du tout connue. Et donc, l'évolution en 20 ans, on ne l'a pas gagnée sur le grand public, le tout public, mais on l'a vraiment gagnée en interne. C'est une musique maintenant qui est connue, appréciée ou pas, mais au moins, en 20 ans, le mot musique klezmer, dans la communauté juive, y compris des juifs séfarades, des juifs orientaux, maintenant tout le monde sait ce que c'est. Bon, ben voilà, on a au moins gagné ça, le militantisme. Parce que moi, je me suis mis à faire ça parce que j'adorais cette musique. Et là aussi, j'avais un côté militant au départ. Je voulais la faire connaître. Maintenant, je l'aime tellement que je veux la connaître moi-même.
Alors, à côté de la musique, des notes, il y a aussi les mots. Ouais. Vous dites des textes, vous êtes conteur. Qu'est-ce que la musique ne peut pas dire que vous dites à travers les mots?
Ah, ça, c'est mon problème. C'est effectivement, j'ai beaucoup de respect pour les musiciens abstraits, les musiciens qui consacrent toute leur vie à la musique. Et donc, comme je vous disais, j'adore la musique, mais il me manque un peu quelque chose de temps en temps. Et c'est un peu les mots, c'est le sens. C'est vrai que j'ai un certain besoin... à certains moments, de rajouter des mots sur des musiques. Bon.
Quels mots?
Là, j'avais découvert un auteur vivant, Cyril Fleischmann, qui a écrit des nouvelles sur le Paris juif populaire d'après-guerre. Et c'est des nouvelles très marrantes, très populaires. C'est un univers que j'ai connu. Et donc là, j'ai eu envie de dire les mots tout en m'accompagnant au piano. Ou un auteur de l'Oulipo, Hervé Le Tellier, qui fait des aphorismes que j'adore. Et je m'accompagne au piano et je dis ces phrases. Je cherche dans cette direction. J'en ai besoin. Ouais.
Les musiques que vous avez entendues durant cette émission sont extraites de deux CD. L'un, les ateliers jazz de l'École des Arts de Marcoussis. L'autre, les musiques klezmer, le duo Pellet-Cugnot, volume numéro 3, à Musique du Monde.
Grisaille des murs, qui a la longue fissure.
Les armures les plus dures.
Si on veut le pire, et je vous jure, pas fini,
non.
Pas fini, tout donner,
tout donner.
Pas le moment d'abandonner,
changer de donner.
Ouais, c'est pour ça qu'on est encore là.
Encore là, prêt à foutre le souffle.
Prêt à foutre le souffle, tout le monde est cordat.
Total respect.
Je reconnais au débit.
Le clown.
Ah, qu'est-ce que tu dis à Dieu? sorti. Time for some action. Aïe, veuillez carré l'escalaire.
Avec un fond bestial.
C'est le Saint-Lystère.
Faut donc en chier le pare-balles.
C'est le Saint-Lystère.
Si toutes les colères du monde, Denis Cugnot, Aline Paillet, Brigitte Bouvier, Rémi Fessard, Pascal Ayer. La semaine prochaine, nous rencontrerons les vendeurs précaires du marché Saint-Sernin à Toulouse. Hélène Azéra pour poursuivre en musique sur France Culture.